France Info.
Le rendez-vous était risqué et très attendu. L'exercice était inédit. Emmanuel Macron a pris 2h30 hier soir pour présenter ses réponses au mouvement des Gilets jaunes et aux conclusions du grand débat national. Un discours introductif et ensuite la fameuse conférence de presse face à plus de 300 journalistes. Alors sur le fond, le président a-t-il donné plus que ce que l'on savait déjà ? A-t-il évolué sur les idées, les grandes lignes de l'action à mener ? L'équilibre de sa politique, c'était un enjeu. Nous en parlons avec nos invités. D'abord, le politologue Olivier Roucan. Bonjour.
Bonjour.
Chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Vous étiez avec nous hier et vous nous disiez ce qui vous semblait a priori indispensable dans l'intervention d'Emmanuel Macron. Donc, on va voir s'il comptillait ou pas, selon vous. Guillaume Duval, bonjour à vous.
Bonjour.
Éditorialiste au magazine Alternatives économiques, auteur d'un livre intitulé Trump, Poutine, Orban, Salvini, le Brexit, une chance pour l'Europe. Ça vient de sortir aux éditions Les Petits Matins. Isabelle Chailloux, chef du service économie de France Info. Bonjour Isabelle.
Bonjour Hercine.
Et en ligne avec nous, Baptiste Talbot. Bonjour à vous.
Bonjour.
Secrétaire général de la Fédération CGT des services publics. Alors, avant d'entrer dans le détail, Olivier Roucan, je le disais, vous étiez ici hier. Alors, avant, après, qu'avez-vous pensé globalement de l'intervention du président de la République ?
Bon, disons qu'il y a à l'évidence des propositions qui sont sur la table. Je pense que le propos introductif était trop long pour être marquant et fort. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses et 20 minutes sans doute étaient préférables pour faire passer 2-3 axes forts et redonner un sens, comme il avait été indiqué par les conseillers, à la suite du quinquennat. Là, bon, il y a quatre points, des tas de mesures. On se perd un peu. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Et manifestement, je ne suis pas seul au vu des sondages qui sont faits depuis ce matin.
Guillaume Duval, votre opinion générale.
Ce qui était assez touchant, c'est de voir quand même que ce mouvement, le grand débat, a permis à notre président de découvrir la réalité du pays que manifestement il ne connaissait pas bien. Donc il a découvert qu'il y avait des familles monoparentales et qu'elles vivaient très mal. Il a découvert qu'il y avait des territoires qui se sentaient abandonnés parce que les services publics fermaient. Bon, après, une fois qu'on a constaté qu'il avait découvert qu'il avait fait quelques bêtises depuis 2 ans parce qu'il connaissait mal la situation du pays, sur les conclusions qu'il en a tirées et sur les suites qu'il s'apprête à donner, il y a beaucoup de flou à ce stade.
Oui.
Il y a beaucoup de comités théodules qui sont chargés d'inventer des choses nouvelles.
Donc vous dites que le compte n'y est pas, les réponses ne sont pas adéquates.
Il y a des réponses qui sont inadéquates. Bon, sur la question de l'environnement, on pourra y revenir. Mais donc là, il avait déjà noté que ce qui avait fuité la semaine dernière, le
contenu n'était pas du tout. Non, mais globalement, votre vision globale, on rentrera dans les détails ensuite. Vous dites, après cette intervention, les réponses ne sont pas suffisantes par rapport à la crise que la France traverse.
Il a noté qu'il y avait une crise qu'il n'avait pas anticipée, qu'il avait fait des bêtises. Mais à part ça, il n'y a pas de réorientation majeure
du quinquennat. D'accord, pas de changement de cap. Baptiste Talbot, votre sentiment pour ce qui est de la fonction publique, alors vous allez nous le donner dans une seconde, je voudrais qu'on réentende ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir, l'annonce principale sur ce sujet.
J'assume totalement, si ce n'est pas tenable, d'abandonner cet objectif. Je pense que le plus important, c'est de tenir et de baisser la dépense publique comme je m'y suis engagé, c'est de pouvoir baisser les impôts, et nous avons commencé. Mais je veux dire, on ne peut pas poursuivre à la fois, surtout quand on doit réinvestir dans la sécurité, dans l'éducation, dans la justice, je ne vais pas donner là aussi des injonctions contradictoires au gouvernement. Et donc je suis prêt là-dessus à lever cet objectif, mais pas à lever celui de tenue de la dépense publique.
Le fameux objectif de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Est-ce que ça vous semble être un changement majeur, Baptiste Talbot, dans la politique d'Emmanuel Macron ?
Changement majeur, je ne crois pas, parce qu'on a quand même observé hier qu'il y avait une forme d'obstination du président et une volonté assez clairement affirmée de maintenir le cap sur l'essentiel de son orientation, avec quand même par ailleurs une attitude d'un président qui continue quand même de sembler assez content de lui et assez satisfait.
Et sur ce point-là,
j'allais y venir. Il y a quand même un infléchissement symbolique qu'on ne peut pas ignorer. L'affaire des 120 000 fonctionnaires, ça avait quand même été un des marqueurs importants de la campagne électorale et puis de l'action du gouvernement depuis 2017. Le fait que le gouvernement, le président annonce donc hier qu'il y a clairement un renoncement à cet objectif des 120 000, ça nous semble quand même être une forme de reconnaissance du fait que oui, il y a bien un problème aujourd'hui dans ce pays sur les services publics et sur leur capacité à répondre aux besoins de la population. Et on prend ça aussi comme une forme de reconnaissance de l'utilité des fonctionnaires et agents publics. Et surtout, ça nous invite et ça nous incite à vraiment construire le rapport de force et la mobilisation nécessaire aujourd'hui dans la fonction publique.
Isabelle Chaillou.
Le chef de l'État a aussi évoqué hier la mise en place de maisons France Service, hein, en gros des maisons de services publics qui regrouperaient des administrations, des services sociaux. Est-ce que ça vous semble possible que ce soit mis en place dans délai assez court ou c'est un pur effet d'annonce à vos yeux ?
Alors la forme maison des services publics, c'est pas une nouveauté, ça existe déjà. Nous, la véritable question qu'on pose, c'est financement, c'est nature des emplois, et nous on reste très attachés à la nature statutaire des emplois, à leur caractère titulaire, parce que c'est un facteur de stabilité et c'est extrêmement important pour avoir un service public neutre et impartial, qui soit préservé des pressions politiques et partisanes, parce que ça c'est vraiment un des gros sujets du projet de loi du SOPT qui va arriver au Parlement dans les semaines qui viennent. Donc pour nous, l'essentiel, c'est qu'il y ait des agents sur le terrain qui assument leur mission.
On a l'impression qu'il y a des points positifs, mais que vous avez un peu de mal à le reconnaître, Baptiste
Talbot. Nous, ce qu'on dit, c'est que si on ne ferme pas les trésoreries, si on ne ferme pas les écoles, si on ne ferme pas les hôpitaux, si on ne ferme pas les différents services qu'il y a sur le territoire, il n'y a pas besoin de créer des maisons de services au public. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un tissu aujourd'hui qui a besoin de renforcer et de développer. Et c'est quand même ça l'essentiel, et c'est ça la véritable question.
Après, il y a quand même du positif.
Il y a un véritable infléchissement symbolique que nous ne méconnaissons pas, mais encore une fois, que nous prenons comme un encouragement
honnêtement,
à pousser l'avantage.
Oui, on a bien compris, mais c'est quand même assez rare de vous entendre dire ça, Baptiste Talbot. Olivier Roucan, ça c'est significatif, là, ce qui se passe vis-à-vis de la fonction publique, pour le coup.
Oui, c'est significatif, mais il s'agit de ne pas supprimer 120 000 emplois. Hein. Donc il faut aussi voir donc une certaine stabilisation de l'emploi public, c'est ce qui se dessine. On parle à la fois de la fonction publique territoriale ici, de l'État et de l'hospitalière, des trois fonctions publiques j'imagine. Mmh. Alors la fonction publique de terrain, elle existe, hein, c'est la fonction publique territoriale dans les mairies, dans les départements, les régions. Il y a la fonction publique de l'État déconcentré qui existe aussi, même si elle a perdu un peu en emploi, enfin même pas mal en emploi ces dernières années. Quant aux maisons de services au public, c'est qu'une dynamique qui a été renforcée en 2015, mais qui préexistait déjà. On en trouve les prémices dans une loi de 2005. Donc, même si on
c'est
les rassemble
une nouveauté.
Par canton, on ne peut pas dire que ce soit de l'innovation publique, si vous voulez. Hein.
Ouais. Guillaume Duval.
Oui, simplement, ça c'est un point important, mais de toute façon, pour les gens qui connaissent un peu le dossier, ça paraissait de toute façon impossible d'arriver à cet objectif, compte tenu de ce qui se passe dans la sécurité, dans l'éducation, etc. etc.
Oui.
Mais c'est important qu'il l'ait acté. Par contre, s'il maintient la volonté de baisser les dépenses publiques au niveau où il l'avait prévu jusque-là, ça signifie qu'il va tailler encore plus que ce qu'il avait prévu dans les dépenses sociales. Hein, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va faire baisser les retraites, il va faire baisser l'assurance maladie, il va faire baisser le chômage beaucoup plus que ce qui était prévu initialement, puisqu'il comptait sur une partie de cet argent pour limiter les dépenses publiques.
Et oui, la grande question du financement des mesures, Isabelle Chaillou.
Il y a une vraie question, parce que si on comptabilise mesures annoncées en décembre, on a dit 10 milliards, en fait c'est plutôt 11. 5 milliards de baisse d'impôts annoncées hier, plus la réindexation des retraites, tout ça, ça fait rien que pour 2020, ça fait plus de 17 milliards à trouver et effectivement en partie sur la réduction de la dépense publique.
Bien, on va reprendre cette discussion ensemble juste après l'info puisqu'il est midi 20 et voici l'essentiel avec Diane Ferchit.
France Info.
2h30 de prise de parole d'Emmanuel Macron hier soir. D'abord un discours introductif et puis la conférence de presse devant 300 journalistes. Conférence de presse très contrôlée sur le timing, les prises de parole, le décor également. Nous parlons de tout cela et bien sûr des annonces du président de la République en matière économique. On est avec le politologue Olivier Roucan, avec Guillaume Duval qui est éditorialiste au magazine Alternatives Économiques, Isabelle Chaillou, chef du service économie de France Info, et Baptiste Talbot, secrétaire général de la Fédération fédération CGT des services publics. Baptiste Talbot, est-ce que la question du financement des mesures annoncées vous pose problème? Est-ce que vous vous dites que c'est pas clair à ce niveau-là ou pas?
Je rejoins Guillaume Duval, on va pas pouvoir tout faire. C'est-à-dire on va pas pouvoir maintenir le niveau de l'emploi public et maintenir le niveau des prestations sociales. Accessoirement, il y a quand même une autre question effectivement qui reste centrale, c'est la question des salaires et notamment la question des salaires dans la fonction publique. Donc voilà, baisser les impôts, maintenir le niveau des emplois, maintenir à un niveau correct, voire en augmentation les prestations sociales, ça va être très compliqué si on ne va pas chercher l'argent là où il est. Et nous, ce que nous disons bien évidemment, c'est que l'argent, il est d'abord du côté des poches des plus fortunés et des grandes entreprises. Et de ce point de vue-là, il n'y a effectivement absolument aucun infléchissement dans le discours d'hier. Et donc ça, c'est effectivement une énorme contradiction.
Isabelle Chaillot.
Il y a tout de même un petit infléchissement, parce que parmi les pistes pour financer la dépense publique, il y a la réduction des niches fiscales, uniquement celles qui sont destinées aux entreprises. Le MEDEF déclare à l'instant que c'est totalement inacceptable. Ce que dit Bercy, c'est que ça ne se fera pas d'un seul coup, qu'il y aura des concertations. Mais surtout, on rappelle que les entreprises, elles ont déjà bénéficié de 20 milliards de trésorerie avec le CICE, que l'impôt sur les sociétés va baisser. Il y a quand même une petite musique pour rappeler aux entreprises qu'elles ont déjà eu leur part de baisse d'impôts et qu'elles doivent maintenant être mises à contribution, ce qui est tout de même une inflexion au moins dans le discours.
Oui, Olivier Roucon, on a l'impression effectivement que le président a voulu montrer qu'il pouvait se fâcher aussi avec les entreprises. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui, puisque le MEDEF est très mécontent de cette annonce.
Oui, il est vrai que le président envoie un message, vous parlez d'infléchissement, bon, qui tranche même, c'est vrai, par rapport à ce qui a été le discours du pouvoir depuis le choc de compétitivité de François Hollande, finalement. Donc là, il y aurait un changement, même si on avait déjà parlé de chasse aux niches fiscales lors du précédent quinquennat.
Oui,
donc on n'est pas non plus sur quelque chose. Et puis ça manque pour l'instant de précision. Donc le gouvernement là va avoir fort à faire sur cette question.
Mais
donc,
encore une fois, ce sont des grandes directions.
Pour revenir au sujet, finalement, c'est que dans plein de domaines, il y a des lignes de fuite, mais à 5 ans, à 5 ans au moins pour se rendre compte de l'application des choses. Or là, on sort d'une crise qui exige peut-être, encore une fois, des lignes de force assez rapides. Je ne dirais pas de l'urgence, mais enfin, une politique publique, des inflexions qui se traduisent rapidement dans la réalité, parce qu'on a un état de l'opinion qui est quand même mauvais.
Donc on n'est peut-être pas sur un temps qui correspond à la crise, là.
C'est
dans
ça,
les
c'est
dans
ça, dans la sortie d'un grand débat, puisque tout est parti de là, sortie d'un grand débat et de la crise des Gilets jaunes, je ne sais pas si cette communication d'hier correspond à cette séquence.
Guillaume Duval.
Oui, donc sur la question des niches fiscales pour les entreprises, Emmanuel Macron a fait un choix, il a choisi de ne pas se fâcher avec les riches, c'est-à-dire de ne pas rétablir l'ISF, de ne pas augmenter l'impôt sur le revenu pour les très riches, de ne pas augmenter l'impôt sur les droits de succession, comme Christophe Castaner lui avait suggéré il y a quelques mois. En compensation, compte tenu de ce qui s'est passé, il tape un peu sur les entreprises. Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, la crise des Gilets jaunes, elle vient d'un transfert massif de charges fiscales des entreprises vers les ménages.
Donc là, ce qu'il fait, c'est revenir vers l'idée de justice fiscale qu'on a beaucoup entendu.
Non, parce que la justice fiscale, ça consisterait aussi à mettre plus de fiscalité sur les revenus,
mais
sur le patrimoine
des très
riches. Mais
il va sur ce terrain-là.
Mais non, parce que les entreprises, ça touche aussi les salariés. S'il y a des entreprises qui doivent licencier à cause de ces mesures, c'est pas forcément les très riches qui en subiront le plus les conséquences.
Oui. Isabelle Chaillou.
Sur la baisse d'impôts, la baisse de l'impôt sur le revenu qui a été annoncé, donc 5 milliards, ça concerne 15 millions de foyers fiscaux. En fait, la quasi-totalité des foyers fiscaux qui paient l'impôt, puisqu'il y en a 16 millions qui paient l'impôt sur le revenu. Dans les précisions qu'on a aujourd'hui, on comprend que l'idée, c'est de concentrer cette baisse d'impôt sur les deux premières tranches, en gros jusqu'à un peu plus de 73 000 euros de revenus, et surtout de faire en sorte que ceux qui gagnent plus ne profitent pas de cette baisse de l'impôt sur le revenu. Donc il n'y a pas de création de nouvelles tranches, il n'y a pas d'effort supplémentaire qui est demandé aux contribuables les plus aisés, juste l'idée qu'ils ne puissent pas profiter de cette baisse de l'impôt sur le revenu.
Bien, alors il faut qu'on entende aussi ceux qui attendaient énormément de l'intervention d'Emmanuel Macron, parce qu'ils lui en veulent aussi beaucoup, ce sont les retraités. On le disait hier ici même. Alors une réaction parmi beaucoup d'autres, celle de cet ancien aide-soignant, il s'appelle Didier, retraité depuis 6 ans, il touche moins de 1200 euros par mois.
Alors en fait, il va nous redonner un peu ce qu'il a pris, c'est le chat et la souris. Je te redonne, je te reprendrai, ben, si on ne peut pas faire autrement, ça va finir dans la bouillabaisse.
Il vous reste combien par exemple, après avoir payé votre loyer et tout ça par
quand
mois?
Tout est payé, 200 à 300, même pas. On a travaillé toute sa vie, et ce qui est malheureux.
Voilà, ce retraité Didier avec Farida Noir, Olivier Roucan, cette annonce de bouillabaisse là.
Je ne sais pas.
Qu'en pensez-vous?
C'est vrai que c'est l'heure du repas, mais si vous voulez, il y a la question de la retraite minimum quand même qui a été, semble-t-il, annoncée. Et je ne vois pas la cohérence avec un système de retraite à points. Enfin, j'aimerais mieux comprendre notamment le fond de la réforme de la retraite qui est préfiguré pour l'instant, notamment la valeur du point, comment tout ceci pourra être mis en cohérence.
Oui, donc c'est un peu comme sur les autres grands sujets. Vous dites beaucoup de petites annonces, mais la cohérence générale,
c'est intéressant
d'avoir
cette retraite minimum à 1 000 euros, mais comment ça va s'articuler avec la réforme en cours?
Guillaume Duval.
Oui, donc sur les retraites, c'est une annonce significative, mais enfin quand même, c'est ça ne fait que revenir sur une mesure très, très injuste.
Donc réindexation ça des fait, retraites en deux temps.
Ça fait partie donc des choses que notre président a découvert manifestement, c'est que les retraités ne roulaient pas sur l'or, il ne le savait pas, mais il s'en est rendu compte et c'est bien. Mais simplement pour l'avenir, il y a une chose quand même qui a été annoncée, qui est nouvelle, c'est la volonté d'économiser sur les retraites futures. De faire porter une partie significative des baisses de dépenses sur les retraites futures. Jusqu'ici, la réforme des retraites qui était présentée par Emmanuel Macron était présentée à budget constant. On disait, on va changer le système pour le rendre plus clair, plus juste, etc. Mais on ne va pas toucher au volume des retraites. Là, manifestement, ce n'est plus ce qui se prépare. Et effectivement, dans ce contexte, la mesure 1 000 euros est destinée à faire passer une pilule qui est plus sévère pour les autres, quoi.
Isabelle Chailloux,
oui,
le dernier mot pour vous.
Une petite précision sur les 1 000 euros de retraite minimum qui ne sont pas le minimum vieillesse. Le ministère de la Santé espère le mettre en place dès l'année prochaine pour les gens qui partiront en retraite.
Bien, merci à tous. Olivier Roucan, Guillaume Duval,
merci.
Baptiste Talbot en ligne avec nous. Isabelle Chailloux, chef du service économie de France Info.